Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Une démonstration de force diffusée sur la chaîne locale de la région du Tigré.
Je ferai tout pour le Tigré. C'est pour ça que je suis ici. Je serai un héros du Tigré et je ferai tous les sacrifices. Nous sommes le 5 novembre 2020. L'Éthiopie vient de décréter l'état d'urgence dans la région du Tigré, située au nord du pays. Un fusil sur l'épaule, habillé d'un treillis, un jeune homme témoigne dans une interview reprise par France 24. Il se dit prêt à se battre contre les soldats de l'armée régulière. La veille, le Front de libération du peuple du Tigré avait attaqué un camp militaire de l'armée fédérale éthiopienne. Depuis, la guerre s'est invitée dans l'une des régions les plus pauvres du monde. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va rejoindre dans quelques instants une journaliste qui n'a pas froid aux yeux. Elle est partie au Sud-Soudan, pas loin de la frontière avec le Tigré, pour essayer de comprendre comment et pourquoi la région est en train de basculer en plein cauchemar.
Eleni vit en région parisienne et s'inquiète pour son pays natal, l'Éthiopie, où les violences déchirent la région du Tigré. Les télécommunications sont coupées, impossible de joindre ses proches.
C'est ma mère. Elle n'est pas la seule à vivre là-bas en ce moment. Il y a des nièces.
Depuis novembre, c'est une guerre masquée sans lumière qui se déroule dans le nord de l'Éthiopie, près de la Corne de l'Afrique. À l'ouest, le Soudan. Au nord, l'Érythrée. La vie des 4,5 millions de Tigréens a basculé depuis le mois de novembre et les familles expatriées s'inquiètent, comme ici à Paris dans ce reportage de France 24. Le conflit s'enlise entre les forces gouvernementales et les rebelles du FPLT, le Front de libération du peuple du Tigré. Que s'est-il passé? Pourquoi l'Éthiopie et le Tigré en viennent-ils aux armes? Pas facile d'obtenir des informations, de savoir ce qui se passe sur place. Pour essayer de comprendre et faire un état des lieux de la situation géopolitique dans la région, je me suis tourné vers Laura Maï Gaverio, que les lecteurs des Échos Week-end connaissent bien. Je la suis sur Twitter et j'ai pu vivre presque en direct ses pérégrinations au Soudan, non loin de la frontière avec l'Éthiopie. Je l'ai appelé au téléphone, ça n'a pas été simple, mais on a fini par trouver un moyen de se parler. Revenue au Caire, en Égypte, elle a pu trouver un coin un peu plus calme pour répondre à mes questions. Vous allez l'entendre, elle était dans un parc au milieu d'oiseaux, comme un clin d'œil à celui de Twitter, très utile aujourd'hui pour un reporter. Bonjour Laura Maï.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes rendue au Soudan il y a quelques jours, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec l'Éthiopie, non loin de la région du Tigré, qui fait l'objet de combats intenses entre un groupe rebelle et l'armée éthiopienne. Pourquoi êtes-vous partie en reportage dans cette région reculée?
Alors au départ, c'est un concours de circonstances. J'étais en Égypte pour les Échos et les Échos Week-end. Et comme plein de journalistes qui font du reportage et qui sont basés en dehors de la France, je suis un peu confrontée là ces derniers mois à la conjoncture sanitaire, on va dire. Je ne sais jamais trop si je vais pouvoir rentrer chez moi, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer, si je vais avoir des restrictions de déplacement, des complexités, bref. Donc j'ai décidé de rester au Caire parce que c'était la ville finalement la plus simple pour continuer de rayonner dans la zone qui est la mienne, le Maghreb et le Moyen-Orient. Et j'ai rencontré des immigrés éthiopiens au Caire qui m'ont parlé de ce que leur famille vivait en fait dans les zones de combat de cette région du Tigré, dans ce pays qui est un État fédéral, de l'Éthiopie. Et j'ai réalisé que moi, journaliste qui suis censée me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, je n'étais pas vraiment informée de cette guerre, qu'il faut bien appeler une guerre, et qui dure quand même depuis début novembre. Donc voilà, mon métier, c'est d'aller voir, c'est de pousser ma curiosité sur le terrain. Et j'ai décidé de partir dans cette région de la Corne de l'Afrique qui était vierge. Pour moi, je n'avais jamais travaillé encore dans la zone. Et voilà, je me suis retrouvée au Soudan pour essayer de comprendre ce conflit.
Justement, quelle est la source du conflit qui oppose l'Éthiopie à ces groupes rebelles ?
Alors, comme dans toute guerre, il y a deux choses. Il y a le déclencheur, on va dire l'enchaînement des événements, et puis il y a les sources un peu plus profondes, un peu plus historiques que notre job est d'essayer de démêler. Commençons par le plus simple. Le déclencheur, c'est la décision du Premier ministre Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, d'annuler en août dernier les élections législatives qui devaient se tenir dans toute l'Éthiopie en prenant pour prétexte la Covid. Alors évidemment, le narratif des Tigréens consiste à dire que c'était une annulation opportuniste de la part de ce Premier ministre éthiopien pour empêcher le peuple du Tigré d'élire son propre représentant pour affaiblir les Tigréens sur la scène fédérale. Toujours est-il qu'ils ont quand même maintenu leurs élections, ils ont choisi leurs représentants et ce faisant, ils ont fait sécession avec le parti, on va dire, du Premier ministre, un parti assez hégémonique dans un pays qui découvre la démocratie, qui l'a construit depuis assez peu de temps, et un pays par ailleurs qui est organisé sur un fédéralisme ethnique depuis 1994, c'est-à-dire que les régions sont découpées en fonction de la prévalence de certaines tribus, et c'est donc le cas au Tigré. Pour ce qui concerne les sources plus profondes, en réalité, ce Premier ministre, il a débarqué sur la scène éthiopienne comme un vent de fraîcheur. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix en 2019, c'est-à-dire très très peu de temps après avoir pris ses fonctions. Il a pris ses fonctions non pas suite à une élection, mais il a été nommé par ce parti un peu majoritaire, un peu hégémonique, dont je vous parlais un peu plus tôt, parce que le pays était embourbé dans une crise économique, institutionnelle. Donc les institutions, on va dire l'establishment éthiopien, a voulu débloquer la situation en nommant cet homme assez charismatique, assez volontaire. Et puis, il a voulu quand même renverser la table, notamment en signant cet accord de paix avec le voisin érythréen, avec qui le pays était en guerre depuis des décennies. C'est donc ce qui lui a valu ce prix Nobel de la paix. Mais en renversant la table, en voulant moderniser les institutions, en libérant des prisonniers politiques, il a aussi voulu affaiblir ce système de fédéralisme ethnique. Et il se trouve que les Tigréens y tenaient une place assez importante par rapport à la réalité de leur population, à savoir 6% de la population totale en Éthiopie. Et donc évidemment, comme toute minorité qui est plutôt à l'aise et qui se retrouve du jour au lendemain un peu moins à l'aise dans la représentation nationale, cela a créé des tensions, d'autant qu'il faut ajouter une haine ancestrale entre les Tigréens et les Érythréens. Et donc c'est vrai que le fait que le pays, la fédération éthiopienne au niveau du gouvernement central fasse la paix avec les Érythréens, eh bien, ça a tendu, ça a crispé les représentants du Tigré qui se sont sentis quelque part coincés entre un ennemi traditionnel et un nouveau gouvernement central pas forcément très amical. Donc, vous voyez que comme tous les conflits en Afrique, ça commence souvent par des revendications politiques, séparatistes ou autonomistes. Et les vieilles rancœurs tribales finissent par prendre le dessus et transformer ces guerres en sales guerres. Il n'y a pas de guerre propre, mais disons que des guerres tribales, à fond tribales, avec des exactions contre les civils, on les range un peu plus facilement dans la catégorie des sales guerres.
Vous avez pu approcher de la frontière ?
Ça a été très compliqué, non pas par manque de coopération des autorités soudanaises, puisque moi j'ai été pour l'instant du côté soudanais. Ça a été très compliqué parce que le Soudan est un pays compliqué et je ne vais pas vous mentir, j'ai débarqué sans forcément être toujours très au fait des procédures que je devais suivre pour avoir l'autorisation de travailler comme journaliste, d'autant que j'ai une façon de travailler qui fait que je vais seule. Je n'ai pas de fixeurs avec moi qui sont ces aides que les journalistes utilisent souvent dans la population locale pour les guider avant leur arrivée sur le terrain. Moi, je pars plutôt en autonomie. Et en plus, c'est un arabe au Soudan que je ne comprends absolument pas. Je suis déjà pas très arabophone, mais alors là, j'étais vraiment perdue. Donc, d'erreurs parfois en rencontres plus ou moins hasardeuses, j'ai essayé de m'approcher de la frontière. Alors, il y a une autre raison pour laquelle j'ai eu du mal à m'approcher de la frontière, c'est aussi qu'il y a actuellement, on va peut-être en parler un peu plus tard dans le podcast, un regain de tension du coup entre le Soudan et l'Éthiopie pour différentes raisons. En l'occurrence, il y a un conflit territorial qui est en train de se ranimer en ce moment à la faveur de la guerre au Tigré. Et donc, c'est tout simplement une zone dangereuse. Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler de guerre, mais enfin, il y a quand même des mouvements de troupes, de l'artillerie lourde qui se déplacent. Et comme dans tous ces contextes-là, probablement des milices ou en tout cas des groupes armés plus ou moins officiels qui échappent un petit peu au contrôle des gouvernements centraux de part et d'autre. Donc, de toute façon, c'était compliqué de m'approcher de la frontière. J'y suis allée, j'ai pas forcément fait tout ce que j'ai voulu, mais ça c'est la frustration du reporter de terrain, on fait avec.
J'ai pu suivre votre parcours sur Twitter. Le 18 février, vous écriviez « Des bruits d'artillerie lourde ont été entendus tous ces derniers jours dans la région de Mekele, dans un rayon de 60 à 80 km. Des coupures d'électricité opérées par les forces éthiopiennes pendant les offensives sur la route d'Adwa à 160 km. Les combats continuent. » La guerre est bien présente, Laura Maille ?
Oui, alors pour ce qui concerne l'expérience, on va dire un peu directe de cette guerre au Tigré, hein, je parle vraiment du Tigré. Là, la frustration, c'est de ne pas pouvoir approcher de la zone de combat parce que c'est une guerre qui se joue à huis clos. C'est aussi pour ça que moi je parle de sale guerre. C'est-à-dire que le gouvernement central, dès le 4 novembre, c'est-à-dire dès le début des hostilités, qui d'ailleurs ont plutôt été déclenchées par les Tigréens, hein, pas forcément par le gouvernement central éthiopien, Abiy Ahmed, le Premier ministre, a décidé de couper toutes les communications, d'interdire la zone aux journalistes. Et donc, en fait, on raconte une guerre sans y avoir accès directement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous est arrivé aussi en Syrie et en Irak dans une moindre mesure lorsqu'il s'agissait de parler de l'État islamique, hein, de la guerre contre l'État islamique. On va se rendre dans les camps de réfugiés et on va se renseigner auprès de la diaspora, militante, activiste, qui souvent d'ailleurs arrive sur place. Alors dans mon cas, c'était des responsables tigréens, souvent avec une double nationalité, donc vivant en Amérique du Nord, au Canada, en Europe, qui sont venus prêter main forte et qui du coup prenaient le Soudan pour base arrière. Donc là, on a vraiment, c'est presque de l'info de première main malgré tout. Et dans les camps de réfugiés, eh bien des témoins plus ou moins frais, parce que évidemment le flux est continu hein, depuis novembre. Donc il y a des gens qui sont là depuis novembre, décembre et dont le témoignage n'est plus forcément d'actualité, en tout cas de la toute dernière actualité, et puis il y a des gens qui viennent d'arriver. Pour ce qui concerne le témoignage en source directe des exactions ou des phases d'offensive, ça évidemment je ne l'ai pas, puisque moi je n'étais pas sur la zone du Tigré, même si je ne vais pas empêcher d'essayer d'y aller prochainement. Donc ça c'est un point aveugle, hein, puisqu'on a tendance à dire que le vrai reportage de guerre, ou en tout cas de terrain, c'est quand même de voir par soi-même, et le journaliste dit ce qu'il voit. Donc c'est un travail pour recouper l'information qui est quand même plus complexe. On peut moins s'avancer, notamment quand on parle de choses aussi graves que de potentiels crimes de guerre. Ça demande plus de temps pour recouper. Ensuite, pour ce qui concerne les tensions entre l'Éthiopie et le Soudan, ça, je l'ai expérimenté par moi-même d'un peu plus près, puisqu'à certains moments, j'étais avec des contingents de l'armée éthiopienne et j'ai pu constater que c'est peut-être pas encore une guerre ouverte et déclarée, mais enfin, il y a quand même des échanges de coups de feu, il y a quand même des déplacements de contingents militaires assez importants et ce sont deux armées qui se regardent en chien de faïence avec toujours le risque qu'un petit caporal un peu plus excité qu'un autre lâche une offensive et que tout ça déborde de tous les côtés. Donc, il y a une grande tension. Ça, oui, aussi, je l'ai expérimenté. Et puis, quand même, une situation de crise, parce que le Soudan est un pays qui est face à une crise économique violente, très, très dure. Et tout ça, c'est un melting pot. Hein. C'est-à-dire que ce sont des paramètres qui s'empilent les uns sur les autres qui font que cette guerre au Tigré, eh bien, d'un point de vue régional, c'est une poudrière.
Il y a un risque d'extension du conflit qu'il ne faut pas négliger, vous le disiez. À vous entendre quand même, on a l'impression que c'est une guerre qui n'intéresse personne.
Alors, je ne suis pas d'accord sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surprise. C'est-à-dire que je suis partie à l'aventure. Nous, parfois, les journalistes freelance, on a beau avoir des rédactions fidèles avec lesquelles on collabore. Certaines, tout simplement, ont une ligne éditoriale qui exclut certains sujets. Et j'ai eu un peu de mal, je vous avoue, à trouver une rédaction pour me suivre sur ce reportage-là. Donc, je suis partie. Je me suis dit, on verra bien. Je trouverai bien. J'ai trouvé. Mais je me suis dit que effectivement, c'était difficile à caser, quoi. La guerre au Tigré dans une une de quotidien français ou même d'hebdomadaire français, c'est un sujet qu'on connaît mal, tout simplement. on ne peut pas s'intéresser à tout. Et en France, on a plutôt un tropisme moyen-oriental plutôt qu'africain, malgré le fait que nous ayons des troupes engagées au Mali, par exemple, ou notre implication au Tchad. Le public a moins connaissance et les journalistes qui sont vraiment pertinents sur l'Afrique ne sont pas si nombreux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le public est très demandeur. Vous savez, Pierrick, vous l'avez mentionné tout à l'heure, que nous, les journalistes, en 2021, on travaille énormément avec les réseaux sociaux et notamment avec Twitter, avec Instagram, avec Facebook. Et mon public, celui qui me suit, qui me lit très souvent dans les Échos et les Échos Week-end d'ailleurs, eh bien, ont exprimé une soif de comprendre ce conflit. Et ne serait-ce que d'avoir des informations, eux-mêmes ont une frustration, en fait, de ne pas avoir tant d'informations que ça sur ce conflit-là. Et puis, les instances internationales, elles s'expriment. Il y a eu des pressions quand même de la part de l'ONU, de la part de l'Union européenne, de la part de Joe Biden. Dès son entrée en fonction, l'Éthiopie ne fait pas ce qu'elle veut. Il y a notamment des menaces d'activer des mécanismes financiers en passant par la Banque mondiale, le FMI, car l'Éthiopie est aussi un pays qui doit se sortir d'une situation économique délicate.
L'administration Joe Biden hausse le ton contre l'Éthiopie et appelle au retrait des troupes érythréennes au Tigré. De son côté, le gouvernement éthiopien refute la présence de troupes de l'Érythrée voisine à ses côtés dans le conflit, malgré les forts soupçons de la communauté internationale et d'organisations humanitaires.
On a entendu ici sur Africa News, Joe Biden a appelé Addis Abeba à la raison, sans succès jusqu'ici. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a aussi appelé ce week-end l'Union africaine et d'autres partenaires internationaux à faire face à l'aggravation de la crise dans la région du Tigré. Le Ramaï, c'est difficile de trouver une médiation dans la région. Certains espéraient beaucoup du Soudan et surtout de l'Égypte.
La médiation est très complexe. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt l'Éthiopie qui jouait le rôle de médiateur dans les situations voisines. Prenez le Soudan, notamment l'Éthiopie. Ce Premier ministre a joué un rôle clé dans les négociations de transition démocratique. Vous savez que le Soudan a fait son printemps arabe il y a maintenant 2 ans et est en train d'expérimenter cette chose assez fascinante qui consiste à construire un pays, construire une démocratie. Et c'est vrai que Abiy Ahmed a joué un rôle central dans les discussions qui ont mis autour de la table tout un tas d'éléments qui ne s'entendaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément faits pour travailler ensemble, des civils, des rebelles, des gens qui n'avaient jamais connu que la guerre, des militaires qui étaient plutôt à la solde d'un ancien régime autoritaire terrible. Et donc, sans l'intervention de Abiy Ahmed, je pense que le gouvernement d'union nationale, on va l'appeler comme ça, qui aujourd'hui est en train de faire quand même un certain boulot, qui ne va peut-être pas assez vite pour la majorité des Soudanais qui sont confrontés à une pauvreté terrible, mais enfin qui travaille quand même. Le Soudan est un pays qui avance. Donc voilà, l'Éthiopie avait plutôt ce rôle-là jusqu'à présent, de médiateur, en tout cas du côté soudanais. Quant à l'Égypte, en fait, elle se tient très discrète. Pourquoi ? Parce que l'Égypte a un différend avec l'Éthiopie actuellement. La région est compliquée, hein. Vous voyez, il y a les amis de mes ennemis, c'est pas si simple que ça. Mais l'Égypte a un différend avec l'Éthiopie sur ce qu'on appelle le barrage de la Renaissance, la construction d'un énorme barrage côté éthiopien sur le Nil, qui va être un bénéfice majeur pour le Soudan, notamment pour l'accès à l'électricité, aux ressources hydrauliques. Mais ça n'arrange pas trop l'Égypte, parce que l'Égypte, ça va diminuer sa puissance, notamment en termes de ressources hydrauliques. Et en fait, vous savez que le Nil, c'est de toute façon un enjeu géostratégique, économique, un enjeu de développement pour toute cette axe, et ça depuis des siècles. Donc en fait, là, l'Égypte, ça l'arrange plutôt de voir l'Éthiopie embourbée dans cette crise régionale. Donc elle ne cherche pas forcément à la résoudre. Elle ne cherche pas forcément à mettre de l'huile sur le feu, mais elle se tient discrète quand même dans ce conflit. Et dans les chancelleries, on a tendance à dire que ça arrange un peu l'Égypte, cette situation. Donc, pas non plus de médiateur du côté égyptien. Et finalement, je pense que le grand médiateur de la situation restera la communauté internationale incarnée par l'ONU ou éventuellement les mécanismes financiers dont je vous parlais, parce que finalement, le portefeuille, c'est quand même un argument qui porte au final, quoi. عايش معاك وتهنى نعيش سعاد في دنيانا صل غرام ريد وحنا. La crise du Tigré semble hors de contrôle. C'est le constat dressé par le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, de retour d'une mission pour l'Union européenne. La situation est militairement, humainement et sur le plan humanitaire incontrôlable. Et le ministre s'inquiète notamment de l'intervention présumée de troupes érythréennes dans la région. Un rapport d'Amnesty International accuse en effet des soldats érythréens d'avoir tué des centaines de civils en novembre dernier, au début de la crise. Les preuves sont accablantes et mènent à une conclusion effrayante.
Les troupes éthiopiennes et érythréennes ont commis de multiples crimes de guerre dans leur offensive pour prendre le contrôle d'Aksoum, affirme Depros Boutchena, directeur régional de l'ONG pour l'Est et le Sud de l'Afrique. Les témoins ont identifié les Érythréens, notamment grâce à leurs véhicules, leur langue et des scarifications caractéristiques sur leur visage. Addis Abeba dément depuis des semaines une quelconque intervention des troupes érythréennes sur son territoire pour mater la rébellion au Tigré. Laura May, vous parliez tout à l'heure des réfugiés qui ont fui la violence pour trouver refuge au Soudan. Ils seraient 50 000 actuellement. Quelle est la situation dans ces camps ?
Alors oui, le Soudan accueille les réfugiés du Tigré. Mais le Soudan accueille les réfugiés en général. Le Soudan est une terre d'accueil. Je ne me souviens plus du nombre exact. On a plus d'un million de réfugiés de toute la région du Kenya, de la Somalie, du Rwanda. C'est une tradition soudanaise et je le souligne parce que je tiens à évoquer la grande générosité d'un pays dont quand même toute une population vit sous le seuil de pauvreté. Et ça ne pose pas question. Et il n'y a pas de polémique politique, il n'y a pas d'instrumentalisation politique de cette tradition d'accueil des réfugiés. Donc, en plus, on est en période Covid et le Soudan a ouvert ses frontières. Ça n'a pas fait discussion. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 60 000 réfugiés du Tigré sur le territoire soudanais. Un peu plus de la moitié a déjà été affectée par l'UNHCR, c'est-à-dire placée dans des camps ou en tout cas dans des abris. Et la situation dans ces camps, qui sont répartis sur trois zones, principalement près du tripoint de la frontière entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Érythrée, la situation n'est pas facile. De toute façon, la situation dans un camp de réfugiés n'est pas facile. Il faut gérer l'urgence. Il y a des pénuries de médicaments, il y a des pénuries d'eau. Il y a des populations qui arrivent dans des états de santé vraiment dramatiques, qui ont été victimes de crimes, en tout cas de ce qui pourrait être qualifié de crimes de guerre devant un tribunal international. Et puis, le Soudan est un pays pauvre. Donc, de toute façon, la situation n'est pas facile. Après, à titre personnel, moi, j'ai été surprise de la bonne volonté des autorités soudanaises de faire en sorte qu'on s'occupe de ces gens et qu'on s'en occupe dignement. Et je trouve qu'ils font vraiment ce qu'ils peuvent, parce que pour avoir vu des camps des réfugiés, notamment en Irak, dans le cadre de la guerre contre Daesh, où les gens s'entassaient à plus de 20 personnes dans 7 mètres carrés, s'entassent toujours, la situation n'est pas réglée. Ça n'est pas tout à fait le cas dans les camps que j'ai vus au Soudan. Il y a une volonté d'espacer les familles, de respecter un minimum l'intimité des gens et aussi une vraie préoccupation en termes de sécurité, parce que nous avons quand même une population qui peut être un jour témoin d'éventuels crimes de guerre. Et donc, il faut protéger ces populations parce qu'on est proche d'une frontière et qu'on n'est jamais à l'abri, finalement, de représailles. Et je trouve qu'à ce niveau-là, les autorités soudanaises sont assez remarquables. Donc, voilà, c'est mitigé. Un camp, ça n'est jamais agréable. On enferme des personnes pour les protéger, mais on les enferme quand même. Donc, la situation est sur le plan éthique, sur le plan humain, parfaitement paradoxale. Et c'est le drame de la guerre.
Vous êtes parti une quinzaine de jours, sac sur le dos, à l'ancienne, avec peu de moyens de communication.
Oh, je suis une trentenaire. Je travaille en 2021, j'ai beaucoup plus de moyens de communication que mes aînés prestigieux qui, eux, dictaient leurs papiers au téléphone sous les bombes à l'époque. J'ai mon smartphone avec mes communications cryptées, j'ai mon GPS avec ma carte et j'ai tout un tas de gens qui m'aident, qui me soutiennent, qui m'assistent à l'arrière depuis la France. Notamment, j'ai un confrère qui me sert de backup parce qu'il me suit à la trace. J'ai les moyens de contacter une ambassade de France extrêmement réactive par WhatsApp, par exemple. Donc, pour ce qui concerne les moyens de communication, sauf quand il n'y a pas de réseau, et ça arrive, plus souvent qu'ailleurs, plus souvent que dans mes autres reportages, je n'ai pas été coupée du monde, pas trop. Par contre, oui, je suis partie sac sur le dos une quinzaine de jours. Pourquoi ? Parce que ma volonté, en fait, je voulais traverser le Soudan par la terre. Je voulais arriver au Soudan en traversant une frontière terrestre, parce que c'est vrai qu'on le fait de moins en moins à notre époque. Et puis par ailleurs, je voulais comprendre le contexte dans lequel j'arrivais. Je ne voulais pas faire 3-4 jours ou une semaine de reportage de guerre dans un camp de réfugiés. Je voulais découvrir la société soudanaise, les problématiques économiques au Soudan, les problématiques politiques régionales. Et pour ça, ça prend du temps. Donc, c'est bien parfois de perdre du temps pour gagner en pertinence, on va dire. C'était mon projet sur ce reportage.
Comment est-ce que vous avez été accueilli par les gens sur place ? Là, je parle des gens de la rue.
Extrêmement bien. Les Soudanais ont envie de montrer ce qui se passe chez eux en ce moment. Je vous épargne le poncif du Soudanais hospitalier, parce que ça, c'est bien pour les guides de voyage. Mais par contre, on sent une population qui reste assez fière d'avoir mener cette révolution. Assez inquiète aussi de savoir si elle va aboutir. Parce que ils ont fait un choix, les Soudanais, de ne pas passer par une espèce de purge post-révolutionnaire qui aurait consisté à écarter du pouvoir et des structures administratives tous ceux qui avaient plus ou moins participé de près ou de loin au régime de Béchir, à cette dictature terrible qui est tombée il y a 2 ans. C'est un choix assez intelligent parce que du coup, ça évite quand même les bains de sang, les représailles d'un establishment militaire qui ne voudrait pas partir. Ça évite aussi d'avoir à former des gens très rapidement à des compétences administratives que malgré tout, certains révolutionnaires n'avaient pas puisqu'ils venaient de la rue. Donc, intelligent mais lent. Et donc, face à plein de choix qu'il faut prendre en ce moment dans cette situation économique, politique, régionale, sanitaire difficile, beaucoup de Soudanais sont inquiets du legs de leur révolution de la rue. Est-ce que ça va se transformer en révolution politique? Est-ce que le legs démocratique va prendre forme? Tout simplement, est-ce qu'ils vont réussir à construire un pays moderne face à tous ces défis? Et je pense qu'ils sont heureux que les journalistes viennent pour témoigner de cela. En plus, nous, la presse française, on a assez peu de correspondants sur place, donc de voir que les journalistes viennent, s'intéressent, posent des questions, ça leur donne aussi l'impression qu'ils ne sont pas à huis clos avec leur propre histoire. Donc on est très bien accueillis. مستحيل أنا أنساك
طالما قلبي هواك. Un mouvement de colère contre la vie chère s'empare du Soudan. Des manifestations parfois violentes ont quasiment lieu chaque jour dans ce pays. Des vidéos de jeunes détruisant des commerces ont même fait le tour des réseaux sociaux.
Et le pays vient de décider de laisser flotter sa monnaie avec le risque de voir les prix augmenter fortement. 2 ans après le début des manifestations contre la vie chère au Soudan, 1 an après la chute du président Omar el-Béchir, le pays reste en crise?
Oui, le pays reste en crise et c'est très dur. On vit mal hein, au Soudan. On vit beaucoup plus mal dans les villes d'ailleurs que dans les campagnes parce que dans les zones rurales, vous savez qu'il y a toujours une population un peu paysanne capable de subvenir à ses besoins primaires, en tout cas en termes de nourriture. Mais on vit mal, les prix ne cessent d'augmenter depuis la chute de Béchir. Cette réforme sur la monnaie, elle répond en fait aux exigences des institutions internationales d'harmoniser en fait les taux de change, c'est-à-dire le taux de change officiel et le taux de change au marché noir. Parce qu'une fois finalement que cette harmonisation du taux de change sera faite, eh bien on va pouvoir commencer à débloquer des tranches de prêts. La France, qui est très engagée hein, dans l'aide au développement au Soudan, va pouvoir s'investir un peu plus dans certains programmes qui sont plutôt à destination des familles, des femmes, du soutien aux populations les plus pauvres et les plus rurales. Donc en fait, cette modernisation de l'appareil monétaire, financier et du marché, c'est vraiment pour réouvrir le Soudan sur le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 mois, même pas 2 mois, ce pays était sur la liste rouge des pays qui soutenaient le terrorisme. Ça avait des conséquences lourdes dans le quotidien des gens. Il n'y a pas de réseau bancaire au Soudan. Vous ne pouvez pas utiliser votre visa quand vous êtes touriste au Soudan. C'est un pays qui était coupé de la communauté internationale. Donc par cette réforme très courageuse, très douloureuse aussi parce qu'en 24 heures, les prix effectivement ont augmenté, notamment à Khartoum. Vous pouviez voir des files assez longues de gens qui se jetaient sur les biens de première nécessité pour anticiper cette flambée des prix, donc devant les boulangeries, devant les stations-service, avec risque de pénurie. Bon, tous ces mécanismes-là, on les connaît. Mais ce gouvernement de transition l'a fait en ayant ce risque de voir une population ne pas comprendre. Donc oui, une crise, un gouvernement quand même assez courageux, une communauté internationale qui a envie d'aider cette révolution, bah parce qu'elle est aussi porteuse de valeurs hein, qui sont pas négligeables, de justice sociale, de libéralisation d'une société qui a été corsetée par un contrôle religieux, par un contrôle policier. On est à la croisée des chemins au Soudan, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que s'ils réussissent économiquement, il y a des chances qu'avec l'intelligence politique collective, ce pays aille quelque part, vraiment.
Je voudrais qu'on termine avec une petite anecdote qui s'est bien terminé. Il vous est arrivé un petit problème le 14 février, si j'ai bien compris?
Oui, j'ai été arrêtée par une police, alors probablement une police municipale ou une police locale, on va dire, qui n'a pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes visées qu'un gouvernement central qui, lui, a très envie de montrer qu'il accueille les journalistes et qui le fait, hein, vraiment, parce que, je veux dire, la plupart des procédures maintenant sont assez automatiques, bien dématérialisées, mais c'est ça aussi un pays comme le Soudan en transition. C'est un pays où tout le monde n'a pas encore vraiment pris le chemin du nouveau régime. Certains avaient plutôt des intérêts dans l'ancien régime. Et donc, la présence d'une Française qui se balade toute seule, sans forcément demander toutes les autorisations qu'elle devrait demander, ça a suscité la curiosité et une certaine hostilité, on va pas se mentir. Certaines personnes, certains fonctionnaires n'ont pas forcément intérêt à ce que la communauté des journalistes internationaux ait accès à tout. Et puis, il y a un certain machisme dans les régions rurales du Soudan. C'est comme ça. Une femme seule n'est pas forcément un interlocuteur qu'on va respecter comme son égal. Ça s'est bien terminé. Ce n'était pas l'épisode le plus délicat par lequel je sois passée dans ma carrière de journaliste qui vadrouille. Mais ce n'était pas forcément agréable. Et d'ailleurs, c'est là où je reviens sur votre question sur les moyens de communication. Finalement, c'est de donner l'alerte sur Twitter, puisque c'est à peu près le seul canal que je captais dans cette minuscule ville de campagne. Voilà, j'ai donné l'alerte et ça a débloqué les choses assez vite et on ne m'a pas maltraité. C'était juste désagréable.
Voilà, et effectivement, ce fonctionnaire, vous en voulez suffisamment, si j'ai cru comprendre, pour vous pourrir un peu la suite du voyage. Racontez-moi la scène du bus, c'est ce que j'essaye de vous faire raconter.
Ah, la scène du bus, oui. Alors donc finalement, ils ont été obligés de me libérer puisque l'ambassade de France à Khartoum a fait ce qu'il fallait pour qu'on sache que voilà, ma détention était connue. Et donc après ça, on m'a gentiment demandé de quitter les lieux assez rapidement, loin des yeux, loin du cœur. Et donc je suis rentrée dans la, on va dire, ma base arrière qui c'est une ville qui s'appelle Gedaref, et j'ai pris le minibus avec les populations locales, parce que c'est comme ça que je me déplace dans la plupart des pays où je travaille. Et en fait, à chaque checkpoint, eh bien, la police locale avait été avertie par ce fonctionnaire que ça serait bien de me casser un peu les pieds, de me faire comprendre que la prochaine fois que je joue à ça, on me gardera quand même un peu plus longtemps. Et puis finalement, sur les deux derniers checkpoints, toutes les femmes du bus qui ont bien compris qu'on m'en voulait un peu, contrôle après contrôle, ont décidé de se mettre autour de moi, de cacher la petite blanche là planquée dans son minibus pour que la police ne nous arrête pas et ne procède pas au contrôle. Et donc j'ai été protégée par ces femmes pendant une demi-heure, et puis une fois arrivée à Gedaref, elles m'ont ramenée jusqu'au pied de mon hôtel en me couvrant de leur foulard coloré pour que je passe inaperçue. Et c'était très touchant parce que finalement c'est moi la privilégiée dans cette situation, c'est moi qui ai mon passeport français, une ambassade aux petits soins et la possibilité finalement de rentrer chez moi saine et sauve. Ce sont elles qui vont rester confrontées aux difficultés de leur pays et à l'incertitude de leur trajectoire personnelle, historique, collective. Et c'est elles qui m'ont protégée. Donc voilà, je trouve qu'il y a un message universel qui est assez joli dans cette petite scène dont je me souviendrai longtemps.
Merci Laura Maïgaverio, journaliste et correspondante des Échos au Moyen-Orient, pour ce témoignage sur ce qu'il se passe dans cette région de l'Afrique. Je vous invite d'ailleurs à retrouver son reportage dans les Échos Week-end sur la situation politique et économique en Égypte, 10 ans après l'échec de la révolution. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel et notamment l'info internationale, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.